C'est moi, c'est Lola. Celle qui dit v'là un bateau, v'là un samedi, v'là des matelots.
Personnage en personne par Charles Danzy. Auteur Virginia Woolf, 1882-1941, anglaise. Membre de la haute bourgeoisie. Homosexuelle, mariée à un homme avec qui elle fonde une maison d'édition qui publie entre autres la première édition anglaise des œuvres de Freud. Son mari est juif, elle est athée. Politique, Leonard Woolf a écrit qu'elle était le plus mauvais animal politique ayant existé depuis qu'Aristote en a donné la définition. Elle s'est pourtant opposée au fascisme dans les années 30. Morte par suicide, noyade. Personnage, Clarissa Dalloway. Œuvre, première apparition dans La traversée des apparences, roman paru en 1915. Deuxième, dans Mrs. Dalloway à Bond Street, nouvelle parue en 1923. Troisième dans Mrs. Dalloway, roman paru en 1925. Ultérieurement et de manière plus ou moins centrale dans cinq autres nouvelles. Adaptation, Mrs. Dalloway, film de Marlene Gorris, 1997. Rôle de Clarissa Dalloway, interprété par Vanessa Redgrave. Les Heures, roman de Michael Cunningham de 1998, où Virginia Woolf est transformée en personnage. The Hours, film tiré de ce même roman en 2002. Pendant longtemps, les personnages de romans ont été des héros. Héros héroïques, chevaleresques, sabre clair, combattant dragon. Des figures de boucliers en bronze plutôt que des êtres s'apparentant à l'humain. En même temps, il y avait des anti-héros. Le premier roman du monde occidental, le Satyricon, est un roman d'anti-héros. Et s'il y a anti-héros, c'est qu'on croit aux héros. Flaubert, avec son talent et sa lourdeur, clôt ce long cycle par ses anti-héros Frédéric Moreau, Bouvard, Pécuchet et l'anti-héroïne Emma Bovary. Dans les années 1920, qui ont été la meilleure période de l'Europe depuis bien longtemps et que nous n'avons pas retrouvée depuis, Virginia Woolf publie Mrs. Dalloway. Son personnage principal, Clarissa Dalloway, n'est pas plus créée suivant la tyrannie de l'héroïne que selon le sarcasme de l'anti-héroïne. Clarissa est au centre du roman, un roman à la troisième personne, c'est un narrateur qui la raconte, lui cédant parfois le pas pour que nous entrions dans sa pensée et ses sensations, mais sans tapage, sans l'imposer. Il l'aborde par touches, comme les impressionnistes, quelques années auparavant, peignaient leurs tableaux. Je pourrais dire cubiste, mais ça n'est pas ça. Virginia Woolf est trop bien élevée, trop discrète dans son assurance pour se donner l'air de l'avant-garde. Et c'est pour cela, sans parler du naturalisme de Léopold Bloom, qu'elle a détesté l'Ulysse de Joyce, autre roman qui se passe durant une journée dans une capitale. Mrs. Dalloway, c'est à Londres, après la Première Guerre mondiale. Pour en parler, je reçois Christine Jordis, auteure de plusieurs livres sur la littérature de langue anglaise et qui publie ces jours-ci, automne, chez Albin Michel. Christine Jordis, quel âge a dans le roman Mrs. Dalloway, Mrs. Dalloway, et à quoi ressemble-t-elle physiquement ?
Elle vient d'avoir 52 ans, elle le précise, tandis que Peter Walsh, qui est un peu son alter ego, a 6 mois de plus qu'elle. C'est une femme qui a blanchi prématurément à la suite d'une maladie. Elle est un peu frêle, étroite de hanches, mince. Il n'y a rien de sensationnel dans son apparence, ni dans son intelligence, ça nous est précisé, et elle-même le dit au cours d'un discours intérieur. Et pourtant, Mrs. Dalloway a une telle présence, un tel magnétisme, qu'elle retient tous les regards quand elle est dans une foule et qu'on entre dans un salon. On ne voit qu'elle. Elle est là, elle existe.
Pensez-vous que Virginia Woolf, qui aimait l'ironie, aurait choisi ce prénom de Clarissa par référence au roman édifiant de Richardson en 1740, Pamela?
Oh non, je ne pense pas du tout. Elle a aimé Clarissa très longtemps, puisque La traversée des apparences, The Voyage Out, qui est son premier roman, montrait déjà Clarissa et son mari, qu'elle appelle Dick d'ailleurs, elle n'a pas cette vulgarité dans Mrs. Dalloway, et cette Clarissa est bien nommée, ça lui convient très bien, Clarissa. Il ne fallait pas qu'elle ait un nom banal. Ça n'est pas une femme banale. C'est une des voix de Virginia Woolf, je trouve, que les personnages de Virginia Woolf, ce sont des personnages à part entière, et elle le voulait ainsi, mais ce sont quand même des modulations de son moi intérieur. Vous voyez, c'est ça qui est très frappant et qui me frappe beaucoup chez Mrs. Dalloway. Je retrouve la chère Virginia Woolf.
Qu'est-ce que ça veut dire, Clarissa, en 1925? Ça veut dire elle est membre des classes supérieures?
Elle est membre de la haute bourgeoisie, pas intellectuelle, comme l'était Virginia Woolf. Virginia Woolf se définissait comme un highbrow. Et si on l'avait traité de lowbrow, qui veut dire une intelligence commune, elle aurait été formidablement vexée. Mais elle situe sa Clarissa, et c'est ce qui l'intéresse, dans les classes bourgeoises supérieures alliées à la politique. Car le mari de Clarissa, qui s'appelle Richard, et qui est un homme confortable et solide, est un MP, donc un Member of Parliament.
Un
député de la Chambre des communes. Et il est conservateur. Et alors que dans The Voyage Out, il est en vacances et il n'exerce pas son métier, il est sorti de la Chambre des communes, ici, il ne l'est pas tout à fait. On le voit aller parler des Arméniens et des Turcs parce qu'il a des soucis humanitaires en même temps que politiques, ce que ne partage pas du tout sa femme qui, comme Virginia Woolf, est étrangère à la politique.
Tous les deux habitent près du Parlement, c'est-à-dire un quartier bourgeois. Est-ce qu'on peut penser que Virginia Woolf a choisi cet endroit, d'une part pour caractériser leur métier et leur classe, mais aussi parce que ça lui permet de faire traverser Piccadilly par Mrs. Dalloway dans une très brillante scène, et que par-dessus le marché, ça l'éloigne un peu de son Bloomsbury, qui n'est pas tout à fait natal, car elle-même est née dans un quartier.
Elle habitait Bloomsbury. J'ai visité, j'ai travaillé près de tous les squares qu'a habité Virginia Woolf. Elle en a changé au cours de sa vie. Et Tabitha Square, qui est près du British Museum où l'a habité, a été bombardée pendant la guerre de façon terrible. Mais Virginia Woolf, c'est bien au-delà de Piccadilly, et Clarissa Dalloway, c'est au-delà de Piccadilly aussi. Elles aiment l'une et l'autre marcher, se promener dans Londres. Et la marche est pour elles un moyen de s'oublier, de se perdre et surtout de recueillir la sensation de vie qui leur vient avec une telle intensité. Donc cette marche dans Londres, et qu'elles préfèrent à la campagne, elle le dit d'ailleurs, marcher dans Londres est mieux que marcher à la campagne, est quelque chose de incroyablement important dans le livre. Et il y a toute une topographie de Londres entre Westminster, St. James's Park et puis St. Paul, où sa fille Elizabeth va s'égarer, car déjà c'est sortir du périmètre bienséant qu'habite Clarissa Dalloway. On a toute une... Et Regent's Park, où Peter Walsh retrouve le malheureux fou Septimus et sa femme, sans les croire, plus exactement, ils ne les retrouvent pas. On a tout donc une topographie de Londres centrale, d'un Londres bourgeois, mais qui va néanmoins vers le Londres professionnel quand on file vers Fleet Street, comme Elizabeth, vers St. Paul's Cathedral. Voilà.
Il faut peut-être dire, Christine Jordi, ce qui se passe dans Mrs. Dalloway, c'est-à-dire qu'il ne se passe rien en somme. Mrs. Dalloway, l'histoire d'une femme qui sort de chez elle pour acheter des fleurs et qui donne une soirée le soir.
C'est une journée. C'est une journée de 12 heures à peu près, qui commence le matin, pas très tôt d'ailleurs. Elle va acheter des fleurs, alors que dans The Voyage Out, la traversée des apparences, elle va acheter des gants. Vous voyez, ça ne varie pas beaucoup. Et elle prépare sa soirée. Mais ce qui est essentiel et ce qui est nouveau, c'est que Virginia Woolf fait entrer dans son personnage et dans son roman toute la matière de la vie. Vous voyez, et la matière de la vie, ce ne sont pas les événements, encore qu'ils sont là à l'arrière-plan. Vous avez la guerre, vous avez la folie, vous avez le malheur, vous avez la souffrance, tout cela est là. Mais il y a surtout cette vibration de vie, et c'est cela que Virginia Woolf voulait capter et rendre, car elle a écrit ce qui a eu un grand succès à la même époque, The Common Reader, et dans The Common Reader, il y a tout un passage sur le roman.
Je vous interromps, Christine Jardis, pour dire que The Common Reader est un livre sur la littérature, c'est un essai.
C'est ça, c'est ce que je voulais dire. Effectivement, vous avez dedans, disons, une étude qui s'appelle Le roman moderne ou contemporain, et dans lequel Virginia Woolf descend avec vigueur tous les romanciers réalistes de l'époque, tels Arnold Bennett, Goldsworthy ou H.G. Wells, qui est parallèlement réaliste, mais tout de même, elle trouve qu'ils sont passés à côté de la vie et que la vie, c'est tout de même ce qui est le plus important, c'est la seule chose qui vaille. Or, elle essaye dans son roman, et elle y parvient, à rendre la sensation de vie. Et donc, elle brise tous les codes de l'époque.
Alors, vous avez employé un mot important, Christine Jordis, qui est le mot vibration, et je crois en effet que Virginia Woolf est un romancier vibratoire. Et néanmoins, vous avez dit aussi, ce qui est non moins exact, que l'arrière-plan des événements est là. Et il faudrait que vous me disiez, que vous nous disiez, ce que c'est que Londres en 1925. C'est une année assez heureuse, je crois, dans l'histoire de l'Angleterre.
Oui, mais c'est après la guerre. Vous avez les traumatismes de guerre, tels que vous, les chocs terribles que ça a exercé sur les individus. Et vous le voyez dans Septimus, qui est quand même si touché qu'il va devenir fou.
Qui est Septimus ?
Septimus, c'est le personnage que Virginia Woolf a créé et qui est une... En quelque sorte, il sauve Clarissa Dalloway du suicide, puisque Virginia Woolf, à l'origine,
se disait... Vous ne voulez pas me dire qui il est.
Je vais vous le définir. Elle pensait que Mrs. Dalloway allait se suicider. Or, Septimus est l'incarnation de la folie, des états de folie, mais tels que Virginia Woolf les a vécus elle-même. Donc il y a là une reconstitution de cette... comment dire, de ce chaos mental.
On ne va pas comprendre, Christine Jordi, si on ne dit pas que Septimus Ward est un homme qui a été à la guerre de 14 et qu'il est revenu blessé et traumatisé par la guerre.
Oui, et que ce traumatisme de guerre va causer peu à peu un dérèglement de son cerveau. Quoiqu'après tout, on ne sait pas si c'est vraiment le traumatisme de guerre. Peut-être que Septimus, qui est un personnage d'une trentaine d'années ou un peu plus, est enclin, qu'il est disposé à la folie. Qui sait, après tout ?
Il y a une très grande délicatesse chez Clarissa Dalloway. Par exemple, une chose qui m'a toujours frappé, sinon ému, est qu'elle aime le personnage de Sally pour sa façon de faire des bouquets de fleurs.
Oui.
Ça pourrait avoir l'air frivole, mais ça ne l'est pas. C'est une grande indication. D'ailleurs, il y a souvent des fleurs chez Virginia Woolf.
Il y a souvent des fleurs, mais il faut parler un peu du personnage de Sally Sutenayer, qui est Virginia Woolf. Je ne sais pas si elle était homosexuelle, je crois qu'elle était bisexuelle. Elle était androgyne, en fait. Et on voit dans ce livre très fortement que Clarissa, qui est donc une incarnation, à mon avis, un petit peu de Virginia Woolf, était amoureuse, a traversé dans sa grande jeunesse une période amoureuse. Elle est tombée amoureuse d'une fille qui logeait chez elle et qui était l'audace et la liberté même. Et elle était fascinée, elle, jeune femme ou jeune fille de bonne famille, par cette Sally qui courait nue dans les couloirs, qui cueillait des fleurs et qui un jour lui a donné un baiser sur la bouche. Et ça a été le plus beau jour de la vie de Clarissa. Et elle était transportée par l'amour qu'elle éprouvait pour cette jeune fille et qu'elle définit dans le roman. Et elle le définit sans se soucier de l'analyser, évidemment, mais en le traduisant par cela, par une fleur, par un baiser, par le bruit d'une fontaine, par le son d'un violon, comme le fait Virginia Woolf, par des vibrations successives et des sons également. Et cette Sally Sutton, c'est drôle, et je peux peut-être le raconter, cette Sally Sutton, qui est une jeune fille, encore une fois, audacieuse et libérée, et fascinante, à cause de quoi Clarissa n'ose pas poser le broc d'eau chaude qu'elle tient à la main. Elle la retrouve des années plus tard, alors donc elle a 52 ans, parce que Sally Sutton va venir à la party que donne Clarissa. Et là, en la revoyant, elle est devenue une lady. Je crois qu'elle a 5 garçons solides qu'elle a pondus comme il faut, qu'elle est une bonne mère de famille. Et Clarissa se fait la réflexion: je peux poser mon broc d'eau chaude. Ça m'avait fait rire, parce que c'est tout l'humour de Virginia Woolf qu'on retrouve là. Il n'y a plus d'émotion, plus aucune émotion à revoir son amour de jeunesse.
Clarissa Dalloway a elle-même une fille qui est à peu près le contraire d'elle, parce que c'est une fille un peu comme a pu être Sally dans sa jeunesse, impétueuse, qui veut s'adonner à la médecine, enfin toute chose qui effraie la ouais, frémissante Clarissa, non ?
Elle a 17 ans, la plupart du temps dans le roman, mais Peter Walsh la voit alors qu'elle a 14 ans, à peu près, qu'elle est dans l'âge ingrat, et elle est plus, comment dire, figée qu'impétueuse, à mon avis. Elle est impétueuse intérieurement. Elle veut déborder des règles et des limites que lui assigne sa mère, son éducation et son milieu social. Mais extérieurement, elle est comparée à un lys, justement à cause de sa pureté et de son immobilité. Elle est adorée de son père, Richard Dalloway. Elle est adorée de sa mère, mais on sent qu'elle est plus proche de son père, parce que son père est un homme de la campagne et qu'elle-même en a vraiment assez d'être comparée à un lys, à une fleur et à toutes ces choses jolies. Elle a envie d'être libre et d'être à la campagne et d'être avec les chevaux qu'elle adore et avec son chien qui hurle à la fin du roman, tandis qu'elle rejoint son père.
Ça me fait penser, Christine Jordis, au rapport que pouvait avoir Virginia Woolf avec D.H. Lawrence, comment est-ce qu'ils s'entendaient? Parce que ce personnage de fille qui veut
À mon avis, il y a un essai qui paraît sur D.H. Lawrence, mais je ne suis pas du tout d'accord avec cette vision de Lawrence, je me permets de le dire au passage. D.H. Lawrence ne pouvait pas s'entendre bien avec Virginia Woolf. Virginia Woolf ne pouvait être que choquée par son approche de la sexualité, sans compter qu'il n'était pas du tout du même milieu social et que Virginia Woolf appartenait définitivement à une classe sociale privilégiée, tandis que Lawrence est tout le contraire.
Ce qui ne l'empêchait pas de courir la duchesse.
Ce qui ne l'empêchait pas de courir la duchesse, effectivement, et certaines d'entre elles particulièrement, qui étaient très installées dans le Bloomsbury Group et qui avaient comme Edith Sitwell, je crois. Donc Lawrence courait la duchesse, mais en même temps, ça n'a pas été une des dominantes de sa vie. Il les a formidablement critiquées dans ses romans, les duchesses, il en a fait des personnages vraiment ridicules et assez épouvantables. Donc il s'est bien vengé d'elles et il les voyait avec cruauté et réalisme. Alors, donc par là, elle a connu D.H. Lawrence, oui.
Clarissa est donc une bourgeoise, la femme d'un député conservateur, et c'est aussi un personnage créé par Virginia Woolf. Or, dans le roman, elle n'est pas particulièrement féministe. Non, d'ailleurs, qu'on puisse dire, je crois, que Virginia Woolf ait été une féministe
pas
si caractéristique.
Pas du tout, non, je viens de votre avis.
Voilà. Mais néanmoins, ces choses-là existaient. Les suffragettes en Angleterre étaient puissantes. Et elle ne fait pas du tout aborder la question par son personnage. Ça ne l'intéresse pas.
Non, ça ne l'intéresse pas. Elle se définit elle-même, d'ailleurs, comme quelqu'un qui est complètement en dehors de toutes ces questions. Parce que Richard, son mari, va donc à la chambre pour s'occuper des Arméniens et des Turcs, mais elle vous dit, quant à moi, c'est un discours intérieur, hein, donc c'est à la troisième personne, c'est les roses, mes roses m'intéressent beaucoup plus que les Arméniens que je confonds avec les Turcs. Donc elle a même des paroles assez choquantes d'une certaine façon. Donc non, ça n'est pas une femme qui a une tête politique, elle le dit elle-même, elle n'écrit pas, elle ne joue pas au piano. Elle n'a aucun des accomplissements des femmes de sa classe, ce n'est pas ce qu'on lui a appris, mais elle a en elle le don d'aimer la vie, ce don de vie. Elle aimait tellement tout ça, dit le roman.
Nous allons entendre Virginia Woolf dans le seul enregistrement dont nous disposions. Elle parle des mots anglais pleins d'écho et c'est extrait d'un enregistrement de la BBC le 29 avril 1937.
Words, English words, full of echoes, memories, associations. They've been out and about on people's lips, in their houses, in the streets, in the fields, for so many centuries. And that is one of the chief difficulties in writing in today. They're stored with other meanings, with other memories. And they have contracted so many famous marriages in the past. The splendid word incarnadine, for example, who can use that without remembering?
Christine Jordis, dans la première partie de ce personnage en personne, à la fin, vous nous disiez que Clarissa était un personnage fascinant par son intérêt pour les choses ordinaires et qu'elle n'était pas exceptionnelle. Dans votre essai de Petits Enfers Variés, vous intitulez le chapitre sur le journal de Virginia Woolf « Au commencement était l'angoisse ». Eh bien, il me semble que s'il y a un point de ressemblance entre le personnage et son créateur, entre Clarissa et Mrs. Dalloway, c'est l'angoisse, car voilà, on a pu donner l'impression qu'on décrivait un personnage frivole qui s'occupe d'une partie et de
fleurs. C'est ce que Virginia Woolf craignait, d'avoir décrit un personnage frivole et clinquant. Oui, elle craignait
frivole,
ça.
Oui, bien sûr.
Frivole et clinquant, elle craignait ça, Virginia Woolf.
Or, elle a créé un personnage d'angoisse, n'est-ce pas?
Elle a créé, oui, oui. On vit dans l'instant, mais l'instant est creusé de vide et d'absence. Et Mrs. Dalloway le dit. Au cœur du moment d'intensité, quand elle est dans la griserie de sa partie, car c'est ça qu'elle réclame à une partie, c'est de lui donner cette griserie et ce sentiment d'excitation, tout à coup, il y a le vide. Et le vide, la seule chose qui peut l'en tirer, c'est le souvenir d'une femme horrible, parce qu'elle la hait. Et au moins la haine est quelque chose de vrai et de réel. Donc elle échappe à l'angoisse par la haine à ce moment-là.
Est-ce qu'il y a une forme de combat dans Clarissa Dalloway? C'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est un personnage qui est enfermée dans son moi, elle le sait, et de temps en temps, elle a des élans pour aller vers les autres, en quelque sorte. Et c'est parfois noté très brillamment par Woolf, par des bruits, d'ailleurs les bruits de Londres. Il y a un bruit de klaxon qui passe comme ça et qui la sorte de sa rêverie narcissique, pourrait-on dire.
Je ne la vois pas enfermée dans son univers narcissique. Moi, je la vois comme une femme poreuse, en quelque sorte, qui reçoit des impressions venues de l'extérieur, en grand nombre, qu'elle recherche. Parce que elle trouve là une forme d'extase et d'émerveillement, comme je le disais, mais aussi venue de l'intérieur, car c'est la remontée des souvenirs, c'est le mélange des temps permanents. Donc c'est un personnage qui n'est pas enfermé en elle-même, elle ne peut pas l'être, parce qu'elle est trop perméable, vous voyez, elle est imprégnée de trop de choses. Et d'autre part, elle aime les gens, ça je crois. Mrs. Dalloway est un personnage que je trouve plus positif que par la suite. Elle est un vrai personnage. Alors, elle est au bord de la folie. On voit qu'il y a un passage, des flux qui lui sont communs à Septimus, donc cet homme qui va se suicider dans sa folie. Et puis, Clarissa Dalloway, ils ont beaucoup de choses en commun, notamment cette faculté de vibrer à l'existence et quand ils se promènent dans l'ombre, de recevoir les impressions au plus profond d'eux-mêmes.
Votre essai automne que je citais au début de l'émission parle de la vieillesse. Quels sont les rapports de Mrs. Dalloway, qui a 52 ans, et 52 ans en 1925, c'était plus âgé que 52 ans en 2017, quels sont ses rapports avec son vieillissement?
Elle se sent vieillir, et elle a peur de la vieillesse et de la mort, comme Virginia Woolf en avait peur. Mais d'autre part, elle en voit les avantages. Elle voit, comme Peter Walsh d'ailleurs, qui est encore une fois une forme d'alter ego, la vieillesse vous libère. On a renoncé au triomphe de la jeunesse. Et il y a cette ouverture à l'expérience et cette façon de goûter l'expérience dans toute sa saveur. Et comme le dit Peter Walsh, de la faire tourner lentement dans la lumière. Et voilà, si la vieillesse peut être ça, de faire tourner lentement son expérience dans la lumière, elle n'est pas si détestable que ça. Et c'est ce qu'essaye de nous dire quand même Clarissa par moments. Quand elle n'est pas négative, car elle a une impulsion vers la mort, on le sent tout de même. Et puis la crainte de la folie, on le sent aussi dans ce livre, légèrement ou fort, suivant les moments. Elle a tout de même ce côté, cet amour de la vie qui la sauve. Elle a un extraordinaire amour de la vie. Et c'est à mon avis ce qui domine dans ce roman et pourquoi c'est un roman tellement bienfaisant.
Dites-moi, d'après vous, qui êtes aussi romancière, qu'est-ce que Clarissa Dalloway a de spécifiquement féminin qu'un romancier homme n'aurait pas vu?
Pour moi, c'est cette vibration dont on parlait, cette attention à sa sensibilité. Encore une fois, elle ne s'adonne pas à des questions politiques ni sociologiques, encore qu'elles sont là à l'arrière-fond. Elle ne les refuse pas non plus. Mais ce qui compte le plus pour elle, et ce qui m'apparaît, moi, comme quelque chose de féminin, encore que beaucoup de femmes le nieraient, c'est l'attention qu'elle porte à la vie dans ses toutes petites manifestations. Et pour moi, c'est ça, d'être femme. Parce que mon féminisme ne va pas jusqu'à vouloir ressembler aux hommes.
Une chose que je crois très intéressante dans Mrs. Dalloway, le personnage et le roman, c'est que je crois que les personnages peuvent avoir une influence sur leur créateur. Et la chose très frappante, c'est que Mrs. Dalloway est écrite différemment des romans qui l'ont précédée. C'est-à-dire que vous les avez cités, The Voyage Out, etc. La traversée des apparences sont des romans de facture plus classique. Et tout d'un coup, avec Mrs. Dalloway le roman, et je pense grâce à Mrs. Dalloway le personnage, Virginia Woolf acquiert une façon d'écrire beaucoup plus audacieuse et beaucoup plus nouvelle.
Absolument. Je voulais quand même corriger ce que j'ai dit précédemment, que Virginia Woolf était androgyne. Donc la féminité existe, mais elle est accompagnée, comme chez tout être complet, de masculinité. Je ne pense pas qu'il y ait d'être purement féminin ou purement masculin. Elle était androgyne et tous les grands artistes, finalement, ont un côté androgyne, je crois.
Et cette question de la forme du roman?
Et cette question de la forme du roman, elle fait exploser les cadres. du roman réaliste. Et elle le dit, et elle a mené un vrai combat engagé, encore une fois, contre les romanciers réalistes de son époque. Et elle a introduit cette fluidité qui est le courant de conscience dans le roman. Et ça a eu une importance, mais considérable, à l'époque. Ça a véritablement révolutionné le roman anglais.
Pardon de vous interrompre, Christine Jardis, mais Ulysse ou le roman ou le flux de conscience est quand même là, date de 3 ans avant Mrs. Dalloway.
1922. Et ben... 3 petites années. Et qui lisait Ulysse en entier à l'époque, hein? Je pense que ce livre qui choquait, elle admirait hein, quand même
oui,
Ulysse,
oui, oui.
Mais il la
elle
choquait en même
élevé.
Temps dans sa grossièreté, son obscénité. Elle n'aimait pas l'obscénité.
Je crois qu'elle elle ne l'aimait pas de la même façon que Voltaire n'aimait pas Shakespeare. Il trouvait qu'ils avaient du génie, mais qu'ils avaient des gros mots.
Ils ont eu tort. Ça, la suite l'a prouvé. Mais
les romans ne sont pas si différents, au fond, Ulysse et Mrs. Dalloway.
Mais non, bien sûr. Le flux de conscience, le courant de conscience, et puis la journée dans Dublin ou la journée dans Londres, il y a des points de comparaison. Mais on a dit, par exemple, qu'elle avait copié sa fin, que sa fin avait été inspirée par celle d'Ulysse. Faux, absolument. Non, elle l'avait écrit... avant, je crois, la fin, même si elle l'a retravaillée. Donc, ce roman, Mrs. Dalloway, a eu du succès, vous savez. Et je pense que Ulysse était une telle somme, les gens n'ont pas... D'abord, ça a été interdit de publication pendant un temps, donc on ne peut pas dire que ça a changé le cours de la littérature tout de suite. Tandis que Mrs. Dalloway a changé le cours de la littérature. Ça a fait, I.M. Forster aimait ce roman, ça a produit, pas l'effet d'une bombe, mais ça a quand même été très fort. Et alors le suivant, c'est quand même vendu 3800 exemplaires.
C'est lequel le suivant ?
Le suivant, c'était La promenade au phare.
Pourtant, ce n'est pas un roman si compliqué. Vous m'auriez dit les vagues, j'aurais compris, mais...
3800 exemplaires, c'est très bien.
Ah, vous trouvez ça très bien ?
Mais très très bien. Mais c'est très bien. Mais maintenant, il n'y a que ces best-sellers idiots qui veulent nous assassiner en nous disant 20 000 ou 100 000 exemplaires. Mais 3800 exemplaires à l'époque, pour un roman expérimental, c'était bien.
Je dois vous dire que vous avez raison, Christine Jardy. Je pense que tout roman qui se vend l'année de sa publication à plus de 100 000 exemplaires ne se vend autant que parce qu'il est médiocre.
Mais parfaitement. Et Nathalie Sarraute, le jour où elle a vendu un peu en France, c'était 20 000 ou 25 000 exemplaires, elle était très inquiète. Et je me souviens, je la connaissais bien, elle m'a dit « Oh là là, il y a un malentendu là-dessous !» Ça n'est pas tout à fait possible.
Pour finir, Christine Jordis, qu'est-ce que vous a appris Clarissa Dalloway ?
Je ne sais pas si le mot « apprendre » me convient. Elle m'accompagne, vous voyez. Elle m'a appris à regarder le ciel, à regarder les nuages, l'herbe et les arbres. Je le savais déjà, mais avec cette intensité... C'est quelque chose que j'ai retrouvé. Elle a renforcé et elle a accompagné ce que je crois essentiel dans l'existence, c'est le regard et la sensation. La sensation qui est la base de tout. Et ça, elle m'a rendue très très heureuse, Virginia Woolf, avec son roman. Donc, Mrs. Dalloway est une compagne. Je ne peux pas me promener maintenant, que vous m'avez fait relire ce livre, fort à propos, à ce stade de ma vie, sans, quand je vois un arbre et quand je vois le ciel, penser au bonheur de Mrs. Dalloway et le ressentir moi-même. Donc c'est ça ce qu'elle m'a apporté.
Comme si j'étais assis là-haut au paradis.
Réalisation Clotilde Pivin, chargée de programme Mérine Moneghetti, prise de son Olivier Dupré.
Ma vie, le paradis acquis.
Dans un instant, Victor Massé de l'Épinay et le rayon BD.
Grand jeudi. Tous les jours.